Bon début de semaine et merci d'écouter CFM Radio. Le Mag du Tarn, c'est jusqu'à la nuit et c'est avec Jacques. Bonjour à tous. Il sera question dans ce magazine de la soirée de samedi prochain à la salle de l'Orangerie du Musée du Verre de Carmaux qui porte sur l'exil des républicains espagnols en France. Le spectacle Recuerdos de Guillaume Lopez Vidal qui mêle musique, théâtre et performance et la conférence en amont de Bruno Vargas, professeur d'histoire à l'université Jean-François Champollion d'Albi sur la retirada. Bruno Vargas est l'invité du MAG aujourd'hui. Babouchka est en vadrouille, mais bon, pour ne pas se sevrer de notre moment de légèreté, je vous repasse sa chronique de la fin de l'année dernière qui était consacrée alors au Morano Gate. Et tout de suite, le focus de la rédaction.
Les coups de projecteur de CFM.
Vernissage demain de l'exposition « La terre est ma couleur » à la médiathèque « Mon livre de Monestier ». Une exposition conçue en priorité pour sensibiliser les enfants sur le sujet des discriminations raciales. Nathalie Calmens de la médiathèque « Mon livre à Monestier ».
Alors cette exposition, elle parle de la lutte contre le racisme et elle se veut documentaire pour aider les enfants à prendre conscience que l'autre n'est pas différent de lui. C'est à la base pour les enfants. Mais c'est ouvert aux adultes aussi, et c'est vraiment intéressant même pour les adultes. Tous ces panneaux sont très ludiques, très attractifs, et il y a plein de couleurs, plein de textes, et c'est pour tout le monde. Si on se concentre sur les enfants, c'est pour les aider à comprendre, à apprendre et à respecter la chance de toutes nos différences. Chaque affiche est richement illustrée, et interpelle les enfants et les encourage à exprimer leurs sentiments, leurs opinions sur chaque affiche. Il y a une vingtaine de livres qui a été amené en même temps que l'expo et c'est les bénévoles de la médiathèque qui ont installé tout. Les écoles du réseau ont déjà même programmé leur visite et donc ils viendront tout le mois de février. Donc les bénévoles pour inviter les écoliers à la discussion ont même préparé des questionnaires adaptés à leur âge.
La terre est ma couleur, une exposition pour sensibiliser et apprendre aux enfants ainsi qu'aux adultes qui en ont besoin aussi, le respect des différences. La conception, on la doit à Alain Serre des éditions Rue du Monde, les illustrations sont de Zao, et vous pouvez voir et visiter cette exposition à la médiathèque Mon Livre de Monestier jusqu'au 27 février. Pour plus d'informations, www.monestier-tourisme.fr.
CFM, le coup de projecteur.
CFM, le MAG, le MAG.
Cette semaine dans le MAG, je vous propose de nous intéresser à un fait historique qui fait l'objet d'une soirée spéciale le week-end prochain à Carmaux. Il s'agit de la retirada, l'exil de centaines de milliers d'Espagnols vers la France. Bruno Vargas, maître de conférence à l'université Jean-François Champollion d'Albi, spécialiste de l'histoire contemporaine de l'Espagne, donne une conférence à la salle de l'Orangerie à ce sujet et il est avec nous toute cette semaine pour nous intéresser à ce haut fait historique. Bruno Vargas, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans le MAG sur CFM. Samedi prochain, vous êtes invité par la scène nationale d'Albi et la communauté des communes du Carmozin-Ségala à donner une conférence à la salle de l'Orangerie au musée du Verre de Carmaux intitulée « De la retirada à l'exil, les républicains espagnols en France de 1939 à 1978 ». C'est quoi exactement la retirada, monsieur Vargas ?
Alors, la retirada, c'est l'exil des républicains espagnols, pour républicains en temps bien sûr anarchistes, socialistes, communistes et républicains de gauche, qui s'exilent à partir du mois de janvier, fin janvier, entre le 26 janvier jusqu'au 13 février 1939, c'est-à-dire après la perte de la Catalogne par le gouvernement de la République espagnole. C'est le début de la fin de la Seconde République, puisque la République tombe définitivement le 1er avril 1939. Voilà ce qu'on appelle la retirada, c'est-à-dire l'arrivée d'environ 500 000 hommes, et femmes et enfants à la frontière du Pertus, Portbou, c'est-à-dire la frontière catalane, pendant cette période qui dure 15 jours, donc entre le 26 janvier et le 10-13 février 1939.
Voilà. Donc, vous parlez de la chute de la République, en clair, c'est l'arrivée d'un régime dictatorial franco au pouvoir.
Voilà, c'est-à-dire c'est c'est la fin de la guerre civile, une guerre civile qui a débuté en juillet, le 18 juillet 17-18 juillet 1936 et qui s'achève le 1er avril. Et à partir du 1er avril, va se mettre en place en Espagne une dictature qui va durer 36 ans jusqu'à la mort de Franco le 20 novembre 1975. Même si déjà pendant la guerre civile, une partie de l'Espagne se trouve sous le joug de l'armée qu'on appelait nationaliste, puis à partir de 1938 franquiste, notamment une grande partie d'Andalousie, l'Estrémadure, toute la Galice et le nord de l'Espagne à partir de l'automne 1937.
Vous avez avancé le chiffre de plus de 500 000 personnes qui ont traversé les Pyrénées pour rejoindre le sol français. Comment ils furent accueillis par les autorités françaises ici?
Alors, ils furent très mal accueillis puisque le gouvernement français n'avait rien prévu malgré toutes les annonces qui étaient faites depuis Madrid, Barcelone, par les autorités consulaires françaises. Si la Catalogne tombait, il y aurait une avalanche de population qui se dirigerait vers la frontière française, donc la frontière du Pertus, et malgré cela, rien n'est prêt, et donc, si vous voulez, ces près de 1,5 million de personnes vont être reçues, parquées, c'est le terme que l'on emploie, dans des camps qu'on appelait à l'époque camps de concentration. La plupart de ces grands camps, on va les retrouver sur les plages du Languedoc-Roussillon, Argelès, Barcarès, Saint-Cyprien, et aussi dans les terres du sud-ouest, c'est-à-dire vous avez un camp à Bram, un camp à Sept-Fonds, à côté de Montauban, etc., etc. C'est-à-dire que dès le début, les gens vont être à même la plage, pendant au moins une semaine à 10 jours, ils vont être sur la plage sans rien pour se protéger, si ce n'est que des barbelés autour qui ont été montés à la hâte pour les empêcher de sortir. Alors, il est vrai aussi qu'une partie, il y a ce qu'on appelle des camps de triage qui vont être mis en place à la frontière, à Bourg-Madame d'une part et à côté du Pertus, où on va mettre d'un côté les femmes et enfants et vieillards et on va les amener vers des destinations, vers le centre-ouest de la France. Mais il n'empêche qu'il va y avoir aussi des enfants, des femmes et des vieillards qui vont se retrouver sur les camps, ces camps de la honte, ce qu'on appelait les camps de la honte, sur les plages du Languedoc-Roussillon.
Et tout ça se passe juste avant le début officiel de la Seconde Guerre mondiale.
Oui, tout ça se passe entre, comme je vous l'ai dit, puisque les femmes et les enfants, on ouvre la frontière. Les autorités françaises ouvrent la frontière pour laisser passer tout d'abord les femmes, les enfants, le 26 janvier. Tout ça se passe entre le 26 janvier et le 13 février. Alors, il faut savoir que je vous ai parlé donc d'un demi-million de personnes, mais très vite, une partie de la population va retourner en Espagne. Il faut comprendre que sur ces demi-million de personnes qui remontent vers la frontière, il y a bien sûr l'armée républicaine qui va en retraite, il y a les militants politiques et syndicaux, mais vous avez aussi toute une population qui fuit les combats et qui remonte avec l'armée républicaine. À la fin, pour vous donner un chiffre, à la fin 1939, il ne reste en France, enfin dans les camps en tout cas, que 190 000 personnes sur les 475 000 personnes qui ont passé la frontière.
Tin box, Jesus Christ, it wasn't to know, like a chicken. wished of army dreams. Oh, what a wish of all them army dreams. Army dreams. Army dreamers.
CFM, le mag.
Si vous prenez le train en marche, vous êtes dans le mag sur CFM et nous parlons de la retirada, donc l'arrivée de centaines de milliers de réfugiés espagnols suite à l'arrivée de Franco au pouvoir en Espagne en 1939. Aujourd'hui avec nous Bruno Vargas, maître de conférence à l'université Jean-François Champollion d'Albi. Vous avez évoqué le chiffre de à peu près un peu moins de 200 000 espagnols qui restent finalement en France en 1939, à la fin de l'année 1939. Et forcément, cette immigration a contribué ou va contribuer au poids démographique, bien sûr, mais aussi sûrement économique et culturel de la France en général.
Oui, bien entendu. Alors, si on parle déjà au moment de la guerre, vous avez ces hommes et les femmes en grande mesure qui vont participer à l'effort de guerre, d'une part. Et puis, il va y avoir, sous Vichy, une partie de ces Espagnols qui vont participer à la résistance. Pour donner un chiffre, on estime que la résistance espagnole, les Espagnols de la résistance dans le Grand Sud-Ouest, est de l'ordre de 10 000 combattants. Hein, c'est-à-dire à peu près le même chiffre que les combattants français dans cette région-là. Hein, sauf que ce sont 10 000 résistants sur à peu près, je vous parle des hommes de la résistance des exilés de 39, sur à peu près entre 120 et 140 000 hommes. Hein, ce qui fait quand même un pourcentage très très important en ce qui concerne les républicains espagnols qui vont participer à la résistance, et je ne parle là que de la résistance armée. Je ne parle pas des agents de liaison qui vont permettre le passage des Pyrénées, ou bien même au sein en France, dans le Grand Sud-Ouest, les agents de liaison espagnols qui vont assurer les liaisons entre la résistance française et la résistance espagnole. Alors, bien entendu, après la Seconde Guerre mondiale, il faut savoir que les Espagnols vont participer à l'effort de reconstruction, hein, et que cela va être un apport très très important, notamment dans tout ce qui était chantier de construction, tout ce qui sont les barrages, etc. etc. Donc, bien entendu, cet effort-là était très important. Et là, nous ne parlons que des Espagnols de l'exil, c'est-à-dire les réfugiés politiques. Si on va au-delà, c'est-à-dire les économiques, ce qu'on a appelé les réfugiés économiques à partir des années, milieu des années 50, là, l'effort va être encore plus grand, puisque les chiffres officiels parlent de à peu près 450 000 Espagnols qui vont venir en France travailler pour l'économie française, mais on sait très bien que on peut multiplier par deux ce chiffre-là, puisque à l'époque nous sommes dans les 30 glorieuses, et que c'était les propres patrons français qui allaient chercher les Espagnols à la frontière. Hein, et les Espagnols qui passaient la frontière sans papier, simplement avec un visa de tourisme, et au bout de 15 jours, un mois, les patrons français demandaient aux autorités françaises les papiers légaux pour que ces travailleurs puissent, en tout cas un contrat de travail, pour que ces travailleurs puissent rester en France. Vous voyez, c'était une autre époque que celle que nous vivons actuellement.
Moi, je me posais la question, est-ce que la retirada a contribué d'une manière ou d'une autre à l'espagnolisation socioculturelle de la France à cette période-là?
Écoutez, non, parce qu'il faut savoir quand même que finalement, la retirada, je vous ai dit, donc je vous ai parlé de 50 000 personnes, en comptant hommes, femmes et enfants, et que, si vous voulez, 50 000 personnes, c'est très peu par rapport aux immigrations qu'avait connues l'Espagne, notamment vers la France, dès le début du XXe siècle. Il faut savoir que lors de la Première Guerre mondiale, on chiffre à peu près autour de 250 000 Espagnols qui vont venir en France pour travailler, pour suppléer là aussi les jeunes Français qui sont partis au front de la guerre de 14-18, et une grande partie des Espagnols vont rester en France. Donc ce n'est pas la première vague migratoire vers la France, et c'est même peut-être une des plus restreintes. La seule différence, pourquoi on parle beaucoup de la retirada? Comme je vous ai dit, 180 000 personnes, mais il y avait déjà des Espagnols pendant la guerre civile qui avaient fui l'Espagne, notamment lorsque le Pays Basque et l'Asturie tombent aux mains des nationalistes, il y a déjà des premières vagues. Ensuite, quand l'Aragon tombe, il y a une deuxième vague. Donc la retirada n'est qu'une partie de l'exil espagnol, n'est qu'une partie de l'exil espagnol. Mais pourquoi on en parle tant? Parce qu'il y a une connotation politique. Il faut savoir que la guerre civile, c'est l'antichambre de la Seconde Guerre mondiale. C'est là où se joue une partie de la Seconde Guerre mondiale. C'est un lieu où vont s'affronter les grandes idéologies de l'époque, c'est-à-dire d'un côté la démocratie, de l'autre le nazisme et le fascisme, et puis aussi le communisme. Donc, si vous voulez, ce qui se passe à la retirada, pourquoi on en parle encore? C'est parce qu'il y a une forte connotation politique et symbolique de la lutte de la démocratie contre le fascisme et le nazisme. Et que ces hommes qui avaient lutté, ces femmes qui avaient lutté pendant 3 ans, vont poursuivre leur combat en France pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment lors de la résistance. Mais il faut savoir que ce n'est pas la vague migratoire la plus importante au cours du XXe siècle d'Espagnols vers la France.
Retrouve Bruno Vargas demain pour continuer à parler de la retirada. Preuve encore une fois que l'histoire se répète sans cesse. Bruno Vargas donnera une conférence, je vous le rappelle, samedi à 18h à la salle de l'Orangerie du musée du Vert de Carmo, invité par la scène nationale d'Albi et puis la communauté des communes du Carmozin, Ségala. Juste après la conférence, ce sera au tour de Guillaume Lopez Vidal à 21h, qui est accompagné de son quartet pour un spectacle conté, chanté et dessiné. Une performance en live direct comme ça par un peintre caricaturiste dessinateur. Le spectacle s'appelle Recuerdos et s'est inspiré des récits et des chants des exilés. Voici un extrait.
Paseo y Franco se va, paseo.
C'est surtout la musique qui m'inspire les mouvements de pinceau. Moi, j'ai pas fait les beaux-arts, je ne sais pas dessiner d'ailleurs, ce qui est un avantage parce que je ne réfléchis pas. Je ne sais pas faire de perspective, alors je fais ce que je peux avec. avec souvent ce qui me reste de peinture. Si j'ai que du bleu, je mets du bleu par exemple. Sauf qu'ici, pour la retirade, c'est quand même beaucoup de noir et une pointe de rouge. Ces portes, ce sont des gens qui sont partis d'Espagne, qui ont fermé leurs portes. Ils ont quelquefois oublié une valise, un nounours du petit. Et ils n'ont même pas fermé à clé. Et donc ils sont partis en France. Et est-ce qu'ils reverront leur maison? Je ne sais pas.
La suite du mag, on va sourire, rire, s'ouvrir la poire tout en cogitant avec Babouchka qui mettait une couche sur Nadine dans Comme un lundi, Nadine Amok.
Seize jours déjà depuis le Murano Gate et pas un seul mot encore dans cette chronique. Pourquoi ce silence ? Question purement rhétorique, hein. Je rappelle le principe de la radio, vous m'entendez, mais moi je ne vous entends pas. Pourquoi donc ? Bon, d'une part parce que je trouve assez courageux de nos jours de citer les paroles d'un porte-avions, et d'autre part parce que ce lynchage politico-médiatique est immonde. Oui, c'est lamentable, c'est trop facile. Cette femme, au cœur de la tourmente, après avoir tant donné au monde politique. Non, 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 je n'irai pas hurler avec les loups. N'ayons pas peur des mots, l'affaire Murano, c'est la nouvelle affaire Dreyfus, ni plus ni moins. Et Zola, c'est Finkielkraut. Parce que pour comprendre vraiment ce qui s'est passé, il faudrait encore s'intéresser un tout petit peu à ce qu'est Nadine Murano. Née en 1963 à Nancy, où à tout moment elle aurait pu croiser le chemin de Francis Holmes et d'Émile Louis et être sa victime ou encore son épouse, Nadine grandit dans un quartier populaire mais sans leader price. Un véritable coupe-gorge où malgré des parents aimants, elle sombre dans la petite délinquance. Janvier 1970, alors que Madame Joubert, enseignante à l'école Françoise Dolto, l'interroge, elle avoue ne pas avoir appris sa dictée de mots. C'est là le début d'une spirale infernale. À 8 ans, elle déchire la page 5 du journal de Mickey. À 11, elle feint un mal de ventre pour éviter de courir le cross du collège. Bref, c'est l'escalade de la violence. Mais c'est en 1978 que sa vie bascule. Sa mère, Blanche, refuse de lui acheter un chien de race pour lui avoir avoué qu'elle préférait le riz aux pâtes. En somme, qu'elle ne pouvait pas blairer les macaronis. Depuis, elle souffre de sévères troubles du langage et ne peut s'empêcher d'associer les mots « race » et « blanche ». C'est bien plus tard, alors qu'elle est chef de section aux entrées froides chez Flunch, qu'elle trouve enfin sa voie. Elle délaisse alors la Charlotte pour se consacrer à sa rééducation orthophonique et parvient non sans mal à être reconnue par ses pairs comme l'une des plus grandes oratrices de ce siècle. Et là, c'est le drame. Le mois dernier, c'est en feuilletant des magazines dans la salle d'attente de son phlébologue qu'elle fait deux découvertes majeures. La première, c'est que les travaux du tunnel sous la Manche avancent bien. La seconde, c'est que Oncle Benz est noir. Lui qui lui faisait du riz d'une blancheur immaculée. Tout lui revient alors, ses blessures, ses traumatismes, Blanche, ce chien qu'elle n'aura jamais, le jambon macédoine qu'elle maîtrisait tant, tous ses repères volent en éclats. Elle cherche alors un équilibre et s'invente une amie noire pour essayer de comprendre et qu'elle appelle affectueusement Banania. Rien n'y fait. Samedi 2 octobre, elle craque. Soumise à la pression d'animateurs peu scrupuleux et indifférent à la souffrance psychotique, elle sombre dans une profonde diarrhée verbale. Depuis, elle broie du noir à en faire pâlir Valeurs Actuelles. Alors, la seule vraie question à se poser aujourd'hui, c'est celle-là. Sincèrement, non mais franchement, si vous deviez choisir entre voter pour Nadine Murano et vous découper les paupières, vous prendriez quelle marque de cutter, vous ?
Et lundi, je m'en dis. Bof.
Le Mag du Tarn, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Passez une excellente après-midi et on reste ensemble.
Mag pour ne jamais oublier.